Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Pascal Jacob.
Allô!
Et de Gilles Morin.
Bonjour!
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville, et notre thème aujourd'hui sera « Désirer est la chose la plus importante du monde », n'en déplaise à Bouddha et aux chrétiens. Ce thème, pour moi, est important, le désir, parce que dans les religions catholiques et dans le bouddhisme aussi, il y a comme cette idée qu'il faut tuer le désir, il faut tuer le mental, il faut arrêter de désirer les choses du monde, parce qu'eux, ce sont des illusionnistes. Ils croient que le monde est une illusion. Moi, je ne crois pas que le monde est une illusion. Le monde est plutôt une représentation, là, mais les désirs, à mon avis, est un peu comme la force de gravitation. C'est-à-dire, si tu lâches une pomme, elle va tomber vers le centre. Et les désirs, à mon avis, nous amènent vers notre centre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Ça va dépendre des valeurs. C'est sûr que les valeurs chrétiennes, le désir, c'est comme un gros péché. Tu n'as pas le droit de désirer quelque chose. Surtout quand tu es dans quelque chose de plus fermé et tu désires quelque chose qui est extérieur, ça va faire mal parce que les gens vont tout de suite te juger, c'est péjoratif. Mais le désir qui est bon, t'sais, un désir qui va te satisfaire, je ne vois pas pourquoi ça serait mal.
C'est un peu comme s'il avait jeté l'eau avec le bébé, l'eau du bain avec le bébé, parce que primitivement, Adam et Ève ont mangé la pomme et tout découle de ça.
C'est ça, moi, quand j'ai eu le thème, je me suis posé tout de suite en partant, là, j'avais une notion dualiste. J'avais le bien et le mal d'un côté. Puis ouais. Moi qui essaie toujours d'être inclusif, de voir le tout, tout de suite, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, j'ai vu désir, j'ai vu sexualité, j'ai vu désir avec une notion péjorative. Tout de suite que j'ai mis les choses en double, j'ai mis le bon, le moins bon. Et puis ça fait une rétrospective sur moi-même parce qu'en fin de compte, je me suis aperçu que le désir était vraiment un désir chrétien que j'avais à l'intérieur de moi parce que je me suis séparé en partant, juste en écoutant le mot. Et on va élaborer là-dessus.
C'est dangereux ça, parce que dès notre enfance, on nous apprend à ne pas suivre nos désirs. Certains d'entre nous n'ont pas écouté. Moi, par exemple, je n'ai pas écouté tous ces conseils. J'ai toujours suivi mes désirs, même si ça semblait fou. Hein. Ça part beaucoup dans la famille. Hein. La famille qui veut, par exemple, que tu vas soit un docteur alors que tu as une mentalité d'artiste. Moi, c'était mon cas. J'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, de l'art, mais j'ai jamais senti que mes parents comprenaient. Ils ne se sont pas totalement opposés à moi, mais ils ont jamais compris pourquoi je voulais prendre une voie aussi absurde. Ça faisait aucun sens.
Mais il y a aussi un côté de peur aussi. Les gens qui ne veulent pas sauter vers ou aller en direction d'un désir interne, puis qui ne veulent pas l'extérioriser, c'est la peur peur de ce que les gens vont dire et la peur de goûter à ce désir-là et d'avoir une culpabilité après. Moi, je me dis, tant qu'à y aller, vas-y fort. Tant qu'à aller vers un désir, prends-les, accepte, have fun, comme on dit, là, prends-le bien. Parce que c'est tellement... Je trouve que la vie, elle est courte si t'es fermé en dedans. Là. La vie, elle est courte si t'es castré avec tes propres pensées, préjugés, là, déjà faites, déjà bâties. C'est l'enfer de pouvoir vivre. Là. C'est là que la vie, elle devient courte. Là. Mais quelqu'un qui est ouvert et qui va vers ses désirs, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe tes valeurs, la vie, elle est paisible, elle est calme. Puis quand tu es en paix avec les décisions que tu as faites, ah, puis ça, tu vas vivre longtemps parce que tu as une paix intérieure.
C'est ça, la notion de désir fait entrer en ligne de compte En fin de compte, le mot désir ne veut pas vous dire grand-chose. C'est juste un mouvement vers quelque chose. Mais ce qui t'empêche d'agir ou qu'est-ce qui t'empêche d'aller, comme tu disais, c'est la peur ou toutes les valeurs que tu t'es faites. Peut-être pas nécessairement les valeurs de ton entourage, mais les valeurs que toi-même tu t'es bâti. Que tu t'es bâti un château, tu t'es bâti une montagne, puis là, tu n'es plus capable de la graver, tu n'es plus capable. Tu essaies de la dépasser. Puis il y a aussi la permanence dans le désir. Tu peux avoir des désirs, des fois, tu peux. Parce que la notion de désir, besoin, là, c'est intimement relié. Donc, tu peux satisfaire des désirs de courte durée. Tu peux, je sais pas, si on va dans la consommation, tu vas t'acheter une belle voiture, tu vas t'acheter une moto, tu vas désirer cet objet-là, c'est toujours à l'extérieur. Tu vas l'acquérir, tu vas en profiter, tu vas jouir de ce moment-là, mais c'est éphémère parce que il n'y a pas de permanence. Oui. Donc, c'est quand on veut aller vers un désir réel, un désir. Faut qu'il devienne permanent. Et à ce moment-là, le désir permanent, est-ce qu'on peut dire que c'est le bonheur absolu? On peut peut-être tendre vers cette notion-là. Là.
C'est vrai, t'amènes un point intéressant, moi, que j'applique dans ma vie toujours. Là. Quand il m'arrive quelque chose ou quelqu'un me dit « j'ai besoin de quelque chose », je vais toujours lui demander « est-ce que c'est un besoin ou un désir? » Le besoin, OK, le besoin, on entre dans la dépendance du besoin. Par exemple, j'ai besoin de fumer, j'ai besoin d'avoir une femme dans ma vie, ou je désire avoir une femme dans ma vie, ou désire fumer. Quelqu'un, je pense que deux personnes, par exemple, pourraient être des fumeurs. Un va se sentir satisfait, puis va dire que c'est un désir. L'autre, il va fumer, puis il va sentir que c'est une dépendance. Le deuxième va avoir des problèmes parce qu'il se culpabilise, il crée une noirceur, donc il ne jouit pas du fait de fumer, ou ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être boire. Ça, à mon avis, c'est quelque chose de super important. Donc, dans ma vie, je me suis appliqué à ne plus avoir de besoin. Mais ça, là, on parle au deuxième niveau de la pensée. Là. Au premier niveau, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'argent, mais au deuxième niveau de la pensée, les femmes que je mets dans ma vie, les clients que j'accepte, pour moi, c'est pas par besoin, c'est par désir. Et puis, ça change tout. Pour moi, ça, il y a comme une lumière, ça amène de la lumière.
Mais pour moi, le désir, c'est tellement à long terme. Le besoin, c'est à court terme. C'est vraiment, j'ai besoin d'eau tout de suite, j'ai soif. OK, c'est bien beau, mais à long terme, un désir, c'est plus solide parce que ce ne sera pas quelque chose qui va t'affaiblir. Ce sera pas une Moi, je trouve qu'un besoin, c'est une faiblesse parce que c'est rendu quelque chose que tu as vraiment besoin pour pouvoir te sentir mieux. Puis, il ne faut pas oublier que le désir, ça part de l'enfance. Je ne connais personne sur cette terre là, qui va oser me dire « je ne désire rien », c'est pas vrai. Là. Tout le monde a un désir. Ça va dépendre comment tu vois ce désir-là. Il y a toujours ce côté bien-mal, mais ça, c'est selon qui, ce côté bien-mal-là.
Oui, c'est la dualité, je pense. C'est là-dessus que j'aimerais taper aujourd'hui. C'est cette dualité là, qui nous sépare, désirer, alors que ça devrait être bon. Ça devrait être quelque chose de... Si on éduquait nos émotions, si on éduquait nos désirs, si on éduquait nos besoins, ils deviendraient des désirs. Et là, ça nous ferait du bien. Et je pense que c'est dans la satisfaction qu'on trouve le bonheur. Si tu es satisfait de ta vie, peu importe ce que tu as fait, si tu es satisfait, tu peux te placer au par-delà le bien et le mal. Si quelqu'un aime fumer et il se sent satisfait dans ça, ben qu'il fume. Pour moi, je connais des gens qui ont 90 ans qui fument et qui sont en santé. Mais ils n'ont pas culpabilisé. Ils étaient à une époque où c'était pas mal vu. Alors que tu vas avoir des gens qui vont culpabiliser. Ça brise tout. Tu sais, il y a une manière de gâcher une expérience, c'est en se culpabilisant. Ça, c'est dommage.
Puis à chaque fois qu'on parle de désir, on dirait qu'on parle intimement de nous-mêmes.
Oui.
Donc, quand on parle d'un besoin, on dit « Ah, tout le monde a le même besoin ». Mais quand on parle de désir, il me semble que c'est plus intime. Donc, si je parlerais de désir aujourd'hui, je parlerais de mes désirs. Je ne peux pas parler de tes désirs, Mes désirs, c'est propre à moi. Donc, c'est encore plus intime. C'est donc, il faut que la personne, si elle veut être capable de parler de ses désirs, il faut qu'elle soit capable de s'ouvrir. Et l'ouverture, ben c'est là qui ça rend les gens gênés, puis que les craintes rentrent en ligne de compte, puis tous les construits moraux qui rentrent en arrière de ça. Donc, c'est touché, le désir. C'est même une notion féminine, un peu, je trouve.
Ouais.
Ce que tu dis, c'est tellement vrai. Je m'en allais vers là, l'ouverture. C'est cette ouverture-là qui rend les gens sceptiques Ils ont peur. Parce que quand tu es ouvert, ça veut dire que là, tu es en total à l'aise avec toi. Hein, et ça, ça effraie toujours. C'est ça, je l'ai dit dans plusieurs émissions. Quand tu es trop à l'aise avec toi-même, ça intimide autrui. C'est comme, tu es tellement confiant, tu es tellement bien que les gens, ils ne comprennent pas ça. Là. C'est comme. Hein?
Moi, je pense que c'est plutôt que tu leur renvoies leur propre image qui est insécure. Quand quelqu'un qui est très sécure, qui va rencontrer quelqu'un qui ne l'est pas, tout de suite, l'insécure va. Il voit son image qui lui est insécure, ça empire les choses. Oui. Alors que si les deux sont sécures, moi j'ai eu souvent ce problème-là parce que je suis très confiant en moi-même, je suis confiant en mon intelligence, en mes capacités. Mm. Puis quand j'ai enfin rencontré des gens intelligents, c'est comme waouh, enfin. Je pouvais parler de ce que je voulais, je pouvais vraiment parler de mes idées sans faire attention. Parce que, par exemple, j'ai souvent posté les émissions sur Facebook et j'ai eu des gens qui disaient « Ah, il faut faire attention, il ne faut pas tout dire, il faut attention. » Je dis « Ben, pourquoi pour une personne qui ne comprendra pas, on va brimer les 9 autres qui, elles, sont assez intelligentes? »
C'est fou parce que je réécoute les émissions, puis des fois, je regarde certains commentaires, mais je me dis « Si t'es là en train de regarder, c'est que t'as une certaine intelligence et un certain intérêt. Alors, si t'aimes pas ça, y a rien qui va t'obliger à rester là puis écouter. Là.
Ben, on en profite pour écouter une chanson de DJ Mams avec un titre qui s'appelle « Mes rêves ». Tu le connais?
Oui, j'ai entendu.
Et puis, on revient après la pause avec ce thème. Désirer est la chose la plus importante du monde. Retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Désirer est la chose la plus importante du monde ». Moi, je crois que la satisfaction est très importante dans la vie. Moi, je suis un homme satisfait. Je regarde ma vie derrière et je suis satisfait de ce que j'ai fait. Je crois que j'ai fait tout ce que je devais faire et puis j'ai encore tellement de projets devant. Mais par contre, je rencontre tellement trop de gens qui sont insatisfaits. Avec des, t'sais, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est souvent l'éteignoir de la famille, de l'État, de tous ces gens qui t'ont dit, ben non, suis pas tes désirs, suis ta tête, suis ton rationnel, écoute ton père, écoute ta mère. Et il faut apprendre à dire non à ces gens qui ne nous connaissent pas vraiment. On dit c'est cordonnier mal chaussé. C'est pas parce que les gens sont nos parents qu'ils vont nous connaître nécessairement. Et dans la satisfaction, il y a pour moi la fin. Il y a la fin de ce cycle des réincarnations. À mon avis, quand on se réincarne, ceux qui croient à la réincarnation, c'est un cycle. Pourquoi la personne revenir? Elle va revenir, c'est qu'elle a quelque chose encore à faire. Mais si à la fin de ta vie, tu es totalement satisfait, je crois que tu mets fin à ce cycle infernal.
Moi j'ai cette réflexion-là de la satisfaction, ça me fait penser aux sportifs. Là, on est en plein série éliminatoire avec les Canadiens. Puis quand tu dis on aurait donc dû, ben, c'est justement une personne qui est en grosse compétition. Là, je sais que la compétition, c'est pas. Moi, je parle au premier niveau. En ce moment, c'est sûr que la compétition, c'est tu veux obtenir tu as un désir de gagner, disons, la Coupe Stanley, tu as un désir de gagner la Coupe Grey, tu as un désir de gagner un trophée au bout du compte. Donc, tu vas mettre tous tes efforts ou toutes tes actions dans le but à atteindre, dans le désir d'obtenir un résultat. Ça, je parle, c'est sûr que je parle au premier niveau en ce moment-là, mais quand cette notion-là de dire « j'aurais donc dû », ben, si tu te dis pendant que ton match est terminé, ta saison est terminée, puis tu dis j'aurais donc dû m'entraîner plus fort, j'aurais donc dû faire ça, j'aurais donc dû faire ci, ben, à ce moment-là, tu avais un désir, puis tu n'as pas fait tout ce qu'il fallait faire pour obtenir des chances d'acquérir ce désir-là ou de remplir ce désir-là. C'est sûr que là, on parle de compétition, on parle de guerre, mais dans un sens peut-être plus philosophique, c'est que si la personne agit de même dans sa vie, ben, elle n'obtiendra jamais ses désirs si elle reste campée sur ses positions philosophiques puis ses craintes ou ses doutes. Parce que c'est toujours la notion du doute qui rentre en ligne de compte, ses peurs, ses craintes. Donc, autant dans le sport qui est vers la guerre, vers la compétition, autant du côté philosophique où c'est plus intrinsèque, comme on peut dire, il faut ne pas douter. Il faut y aller à 100% dans l'obtention du désir désiré.
Mais ce qui est Je suis d'accord avec vous deux, je mets ça ensemble. Le fait que quelqu'un ne suit pas ses désirs, ça fait quelqu'un de... Comment dire ça en français? Quelqu'un qui est bitter, tu sais, quelqu'un qui est... Tu sais, qui n'est jamais heureux, là. Puis c'est les premiers à bitcher quand il voit quelqu'un qui a du succès.
Tu sais, dans Noël, tu avais Mr. Groove, là, Mr.
Je sais.
Tu sais, le méchant, là.
Oui, je sais de quoi tu parles. Tu sais, c'est ce genre de personnes-là qui n'ont pas suivi leur désir, leur rêve. C'est les premiers à être défaitistes ou à trouver une faille dans le bonheur de quelqu'un d'autre. C'est tellement pathétique parce que quelqu'un qui est bien, qui est heureux, peut-être heureux pour autrui. C'est peut-être facile de « bravo, félicitations », mais quelqu'un qui n'a pas suivi ses désirs parce qu'il y avait une crainte, cette insécurité-là, il sent mal quand quelqu'un a du succès parce que c'est comme cette envie d'avoir autant de « guts », de courage, d'aller vers ce que tu es. C'est vraiment un désir, c'est plus qu'un désir. C'est rendu quelque chose qui est presque vital. Si tu ne fais pas ça, tu meurs en dedans, tu meurs.
Mais c'est ça, mais ça fait partie de ta personnalité. Donc, tu vas voir, tu vas rentrer dans une salle, bien souvent, tu vas voir les gens qui s'expriment très bien, puis ils vont ouvrir sur tout, n'importe quel sujet. Il y en a d'autres qui vont être un petit peu plus timides. Il y en a d'autres qui vont être... Tu vas voir la personnalité, puis tu vas voir le genre de personnalité que la personne est, puis tu vas voir si cette personne n'a pas nécessairement des désirs, mais est ouverte à n'importe quoi. Donc, c'est encore là, ça revient toujours à l'ouverture, à la centricité, puis ça revient à la personne. Donc, la personne va être capable de s'ouvrir beaucoup plus facilement si elle a obtenu, si elle était capable de remplir ses désirs, ou pas d'acquérir ses désirs, mais de fulfill tes désirs, là.
Mais c'est tellement quelque chose de centré, parce que quand tu as un vrai désir qui te ronge, là, en dedans, à un moment donné, si tu ne vas pas vers ce désir-là, tu vas exploser, là, parce que c'est tellement fort en dedans. Puis en même temps, il n'y a rien de plus satisfaisant que d'aller vers un désir, puis tu l'as. Là. C'est tellement bon, c'est quasiment jouissif. Là. Je pense pas qu'il y a aucun orgasme au monde qui peut te faire faire ça.
Là, tu me fais penser, pas une anecdote, mais tu sais, une analogie, c'est comme si toi, mettons, tes deux chums ensemble, puis là, tu as une fille, puis tu regardes la fille, puis ton gars, ton chum à côté, il dit « Ah, oh, elle est pas belle, puis tout a le goût, t'as un kick dessus, mais comme lui, il l'aime pas, mais toi, tu l'aimes pas. » Puis la semaine après, deux semaines après, tu le vois avec elle, puis tu te dis « Calé, j'aurais dû être moins con, puis être ouvert, puis aller vers mes désirs, tu sais. » Tu sais, des fois, t'es en chum en gang, tu fais le tough, puis là, tu vois le gars qui est plus ouvert, il va vers la fille, puis toi, t'es là, puis t'as manqué ta shot, là.
Tu sais, c'est moins critique, je trouve, pour quelqu'un qui aurait des désirs normaux. C'est quelqu'un qui est normal, qui a des petits désirs normaux, tu vas pas choquer. Mais quand t'as des désirs complètement contraires à la majorité, comme moi, par exemple, quand j'ai terminé l'école à 23 ans, j'avais aucun désir de travailler. Ce que je voulais, c'est faire de la bande dessinée 100% de mon temps. C'était ça, mon désir. Et moi, je l'ai fait. Je me suis mis à dos tout le monde. Il a fallu que je me refasse des amis. Les gens ne comprenaient pas et il y avait ce préjugé là, de quand il est sur l'aide sociale. Et pour moi, c'était comme, voyons, c'est ça qui va me rendre heureux. Si moi, je suis heureux, je contribue au monde. Si je suis satisfait, pour moi, l'important, c'est la vibration que quelqu'un émet. Quelqu'un pourrait bien être un prix Nobel, mais s'il a une vibration pourrie, s'il est toujours fâché, pour moi, c'est nul parce que dans l'invisible, il envoie sa merde à tout le monde. Moi, je vérifie toujours ma vibration. Puis je me prends même à le faire dans mes rêves. Ça m'est arrivé tellement souvent dernièrement. Je vais être fâché. Tout de suite, je réalise que je suis dans un rêve. Et puis là, je sais que si j'envoie une vibration négative dans le monde, elle va me revenir.
Ah ouais, c'est sûr.
Par ricochet. Donc, je me calme, je m'aère, tu sais, je me fais de la ventilation. Je trouve que pour moi, l'art est une forme de ventilation extrêmement bonne parce que je garde rien à l'intérieur. Les moments dans ma vie où j'ai eu des tensions, j'allais écrire dans un café, je faisais de la bande dessinée, je faisais de la musique. Et la tension s'en allait. Après, je pouvais penser clairement. Ceux qui ne font pas ça, il y a comme un build-up. Et finalement, un jour, ils pètent une coche. Ils font une crise cardiaque ou ils deviennent amers, comme tu disais, Pascal.
Oui, puis je pense que c'est ça pour moi, c'est pire qu'un cancer, là. Quelqu'un de même qui est jamais heureux, qui est frustré du bonheur d'autrui. Non, vraiment, je trouve que il faut en même temps aller vers un désir, c'est une thérapie. Ça release, tu te sens bien, là. T'es comme, ah, j'ai atteint l'orgasme, j'ai mon désir, je l'ai eu. Tu te sens bien, mais c'est vrai, j'ai un copain, puis mais pas mon mari, mais un ami qui il me dit souvent, moi là, mon trip, c'est de fumer des joints. C'est pas un genre de besoin, c'est un désir. Quand il fume son joint, il sent bien, puis il est pas coupable, pantoute, il est gelé, puis il est bien de même, tu sais. Puis là, j'ai dit, garde, si t'es heureux, je suis heureuse aussi. Tu sais, si t'es heureux, là, tu te sens bien, je me sens bien aussi. Là. Puis c'est vrai, il est zéro stress, ce gars-là.
Ça fait toute la différence. Hein. Moi, c'est quand je fume un joint, je prends ma guitare, je vais jouer de la musique, ça me fait du bien, je me trouve bon, j'aime ce que je fais. Fait après une heure, quand j'ai fini de jouer, je suis dans une paix incroyable. Si je joue pas, il y a un build-up d'énergie, mon énergie circule pas. Donc, j'ai trouvé la manière intelligente. Quand je fume du pot, je joue de la musique. Sinon, je fais d'autres choses, je fume pas.
C'est ce qui est drôle. Il me disait, le monde, aujourd'hui, a tellement ce côté péjoratif quand on parle de pote, pourtant, c'est une herbe. Il disait, Pascal, c'est une herbe. C'est pas du crack, là. C'est une herbe. C'est normal que je la fume. C'est naturel. C'est même pas chimique, là. Puis là, à chaque fois qu'il me dit ça, je me dis, Taline, c'est vrai en plus. C'est tellement ridicule. C'est moins chimique. C'est même pas. Et là, il me dit, Pascal, le pote, c'est tellement un désir normal, puis il peut faire 6 mois sans fumer, là. Il sent bien, là. Mais quand il y a un désir en dedans de fumer, il va fort, puis regarde, je l'ai bien raide, puis je suis bien, là. J'emmerde personne, je suis dans mon monde, je me sens bien.
Et toute la différence est là entre le besoin et le désir. Moi, j'en reviens toujours. Et il y a une éducation à faire. Les gens qu'on met autour de nous, il faut les éduquer. Si quelqu'un dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ci, ben moi, toujours, je vais l'éduquer. Je vais dire, est-ce que c'est un besoin, un désir? Et la fois d'après, je le vois, il va dire, ah, c'est un désir. Il y a une éducation et ça crée une belle relation. On va faire une pause musicale. Mm-hmm. Pour les auditeurs de Radio Centre-Ville, on vous invite à venir finir d'écouter l'émission sur propoursurlebonheur.com. Pour les autres, on continue après la pause avec ce thème « Désirer la chose la plus importante du monde ».
Je ferme les yeux, j'écoute ta voix. Tu envahis mon corps, mon cœur et j'y crois. Je fais des voyages, m'envole souvent. Paris, New York, je suis portée par le vent. Mais je ne veux pas,
non, ne veux pas
me réveiller. Mais je ne veux pas,
non, ne veux pas
affronter la réalité.
Je vis mes rêves mieux que ma vie. J'espionne, je guette, j'exploite mes envies. Je vis mes rêves mieux que ma vie. J'espionne, je guette mes rêves, mes envies. Chante sorcière, je suis lion ou tigresse, surveille tes arrières. Je défie le temps, je défie même les gens. Quand je rêve, je deviens maître du temps. Mais je ne veux pas, non, ne veux pas
me réveiller. Mais je ne veux pas,
non, ne veux pas
affronter. Mes rêves, mes envies. Je ne veux pas me réveiller. Mais je ne veux pas,
ne veux pas
affronter la rue.
Retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Désirer est la chose la plus importante du monde ». Moi, je dis non à la cesse, je dis non à l'abstinence, je dis non au contrôle, parce que tout ça, ça finit par créer une bombe. Bon, quelqu'un qui se contrôle, moi je fais une différence encore entre la maîtrise et le contrôle. Quelqu'un qui se contrôle, là, quelqu'un par exemple, qui est gros, là, qui veut faire une cure d'amaigrissement, il va se contrôler, il va se priver. Ça finit toujours par exploser dans l'autre sens, c'est inévitablement. Alors que, moi, je crois à la maîtrise. Par exemple, moi, à une certaine époque, je trouvais que j'avais un petit peu trop. Alors, j'ai étudié, j'ai trouvé mon tignac, par exemple. J'ai éduqué mes sens, j'ai éduqué mon intelligence à bien manger. Ça, pour moi, ça, c'est de la maîtrise. Et c'est toute là la différence. La cesse, c'est la privation. Moi, je ne crois pas à la privation. Parce que
moi, j'aime ni cessation, ni privation, ni... C'est quoi le mot? Qui
abstinence.
Abstinence. Tous ces mots-là, pour moi, ça rentre pas dans ma tête.
Mais ça fait partie de la culture. Hein. On est dans une culture de l'abstinence aujourd'hui. T'sais. On nous fait travailler comme des robots. Quand tu travailles comme un fou toute la journée, tu arrives le soir, est-ce que tu as le goût de faire l'amour?
T'es crevé.
Et je crois que c'est vraiment pervers. C'est imposé. Moi, n'ayant pas travaillé pendant près de 10 ans, je sais c'est quoi. Je faisais ce que je voulais. Je me levais quand je voulais.
Mais là, on parlait de maîtrise. Et la maîtrise même, ce qui est bien, c'est plus que le contrôle, c'est mieux que le contrôle, mais pour moi, maîtrise, c'est encore de te maîtriser. Moi, j'y vais, bon, tu parlais de Montignac, moi, c'est les quatre groupes sanguins. Puis c'est des choses que, écouter son corps, si tu vas avec ça tous les jours, écouter ton corps, ben là, tu n'as plus de maîtrise, tu n'as plus de contrôle, tu fais ce que tu as à faire dans le moment présent. Puis, si tu as mangé trop une journée, ben le lendemain, tu vas manger moins. Je veux dire, tout est une question de balance.
C'est drôle que vous ameniez ce point-là sur le sujet, étant donné que là, présentement, je suis en train de m'entraîner, puis j'ai un surplus de poids, puis j'ai toujours fait du sport. Le livre de Montignac que tu parles, je l'ai lu au complet.
Oui.
J'ai même fait pas de pain, pas juste du steak, juste de la viande. Ça a fonctionné, mais c'était restrictif parce que fallait toujours que tu penses à ce que tu manges. Donc, je trouvais ça qu'il y avait une certaine restriction. Donc, surtout quand tu as fait du sport longtemps et que tu arrêtes de faire de l'activité, mais là, à ce moment-là, tu grossis, on dirait que tu grossis tout seul. Fait que là, je me suis remis à m'entraîner. Mais j'ai pas changé mes habitudes de bouffe. Donc, ma relation avec la bouffe est toujours la même. Sauf que moi, je suis habitué qu'en m'entraînant, je diminuais de poids puis j'avais une masse corporelle un petit peu moindre. Donc, c'est sûr que si j'avais décidé de prendre un régime avec très bas calories de 1200, ben je suis pas capable de suivre ça. Donc, je vais à l'inverse. Je vais à l'exercice puis j'essaie de... J'augmente ma masse musculaire.
C'est pour ça que moi, j'ai pas choisi le truc avec les calories, ouais. Parce que les calories, ça, c'est restrictif. Ça. Tu vas te restreindre.
Ben oui.
Mais Montignac était plutôt dans les
catégories de pain, de viande. Puis,
mais est-ce que tu déjeunes le matin?
Les glucides.
Je déjeune pas, non. Ben, okay.
Moi, j'ai un ami. Non, justement. Bon, que ce soit ça ou autre chose, c'est même pas grave. Ouais. Ce qui est important, c'est avant de dîner, là, avant le midi, c'est de manger. J'ai un ami à moi, Joël Gagné. Bonjour, c'était là. Qui a maigri de. Il a perdu 100 livres en mangeant des bagels le matin pendant un an et demi. Il a commencé à déjeuner. Ouais. Tu sais, le corps est.
Moi, j'ai 80 livres à perdre. Puis, plus je m'entraîne, plus je prends du poids.
Ben, c'est sûr, c'est ça, la masse musculaire.
Par contre, je suis plus en bonne condition. Je m'ai essoufflé quand je monte les marches, d'autres gens. Donc, je suis pas dans un régime restrictif. Donc.
On est dans le sujet. Ouais, tu parlais de contrôle. Moi, je crois pas en ça non plus, là, le contrôle. Mm-hmm. Moi, je suis en pleine entraînement parce que je vais courir un marathon bientôt. Puis, c'est pas qu'est-ce que tu fais à l'extérieur, c'est l'intérieur. C'est ce qui rentre à l'intérieur. T'as bien beau t'entraîner, mais si tout ce qui rentre en dedans est mauvais, bon, ben regarde, tu perdras pas plus de poids. T'sais. C'est vraiment ce que tu manges. Et moi, je mange tout ce que j'ai envie. Là. J'aime la pizza, j'aime tout, mais je prends des portions plus petites. C'est juste
moi, ça. Je mange à l'asiatique.
Je mange des petites portions.
5 repas par jour,
petites portions, mais je ne me contrôle pas. Puis comme on parle de désir, si j'ai le goût d'une... Si j'ai le désir de quelque chose de vraiment gras, là, je vais y aller pour, là.
C'est clair.
Le goût d'une pizza juteuse, puis pepperoni, puis graisseuse...
Hey, on a un point commun, on va pousser une ville.
Je vais prendre ma slice sans problème, sans culpabilité, et je vais la manger, là. C'est vraiment, comme qu'on disait, il faut vivre ses désirs, sinon tu vas exploser, puis...
Oui, puis quitte à manger 3 bouchées de poutine, puis t'es content. Tu vas pas manger le reste.
C'est vrai,
c'est
parce
ça l'affaire. Les
gens mari,
se,
des fois, là,
font des restrictions.
Il fait la gasse, là, des fois. Là. Il mange une poutine devant moi. Là, gnam, puis je suis comme, oh, j'en mangerais tellement une. Fait, ce que je fais, je mange avec lui. Là. Il n'est pas question que je ne mange pas. Là, j'ai le désir d'une poutine.
La mémoire du cerveau est vraiment...
Mais c'est,
elle se rappelle de ça. Elle dit, si tu ne m'as pas donné de poutine aujourd'hui, que ce soit, de, comme je dis, 3-4 bouchées, là, mais là, le lendemain, tu vas aller t'en chercher un au complet parce que là, il va te dire... Puis là,
c'est le contrôle.
Tu seras pas bien,
une
là.
Une fois que tu essayes de contrôler tout ça, à un moment donné, tu vas décontrôler, tu vas manger là, comme tu n'as jamais mangé. Ouais,
exactement.
Mais c'est pour ça que moi, Montignac, je l'ai étudié, mais je me suis fait mon propre régime qui était basé sur mes préférences. Parce que il y a des choses que j'aime. J'aime le chocolat. Il y a des choses que j'adore, mais je ne veux pas m'en priver parce que qui tu te prives de quelque chose, ben c'est quelque chose qui te rend heureux. Tu sais, si tu aimes le chocolat, fais juste moi, je parle toujours de l'éducation. On peut éduquer nos sentiments. Moi, j'avais une grande révolte en moi quand j'étais dans la vingtaine. Et puis, j'ai compris qu'il fallait que j'arnache cette folie, que je la rende productive, que je la sublime. Un peu comme, par exemple, dans le flamenco, où ces gens ont souffert. Ils vont parler de leur souffrance, mais pourtant, ils te font pleurer par la beauté de ce qu'ils expriment. Ça, c'est de la sublimation. Ils le transforment. Et si on le transforme pas, ça reste de la merde, ça reste des émotions négatives.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est tellement ça pour tout.
Puis, puis juste au niveau du désir, comme pour l'entraînement, je reviens souvent à ça. Mais le fait que de commencer un entraînement, c'est comme si tu te ferais un cadeau à toi-même parce que le désir est rempli. Et là, tu commences à t'entraîner, tu commences à avoir des résultats. Et à ce moment-là, tu te sens mieux et tu es heureux d'avoir fait ce geste-là, d'avoir fait cet effort-là, entre guillemets, ou de faire de cette action-là pour te favoriser. Et le sentiment du désir est là, oui, on le sait, mais c'est l'effet, le but atteint une fois que tu as rempli ton désir, c'est là que tu reconnais que ton désir, il fallait que tu le remplisses. Parce que là, tu deviens plus slim, tu as plus confiance en toi, tu t'aimes plus, tu as plus l'image que tu veux projeter. Et tout ça s'enchaîne parce que le désir comme tel, il n'est pas important. C'est l'action que tu vas faire pour réaliser.
Mais oui, il est important parce que ton désir, c'était de perdre du poids.
Ouais,
ça, c'est le désir
action,
au départ.
Sans action.
Et c'est là où je t'admire. Toi, tu te dis, OK, ben là, on va essayer de changer le régime au niveau alimentaire, mais en plus le sport. Fait que le sport, ça t'encourage parce que quand tu viens de faire une heure ou une heure et demie, ça dépend de ce que tu fais, puis qu'ensuite, tu dis, qu'est-ce que tu vas manger, là? Là, tu vas y penser, puis en plus, ça va te motiver à manger les bonnes choses, puis bravo!
Bref, dans le fond, tout ce qu'on dit présentement, puis je pense qu'on est tous d'accord, c'est qu'il faut aller toujours dans la direction de ce qui nous attire.
Ce qui nous excite
là,
au moment présent.
Je parle pas là, au premier niveau de quelqu'un qui est dépendant, affectif, qui va aller, par exemple, vers l'alcool, il va aller vers des gens qui vont le battre. Là, moi, je parle au deuxième niveau de la pensée, de quelqu'un qui s'est éduqué lui-même, qui est en harmonie, là. Le désir fait partie de quelque chose de normal sur la Terre. Et si on est en harmonie, on ne va jamais aller vers quelque chose qui va nous briser, qui va nous casser, qui va nous rompre. Pour moi,
mais je pense
évident.
Que c'est ça la dichotomie. Parce qu'il y a des gens, comme mettons, qui est alcoolique, son désir, c'est de prendre un coup. Mais cette personne-là va remplir son désir. Mais c'est pour ça que cette notion de péjorative est toujours dans le système. C'est que les gens pensent qu'une personne qui est alcoolique, qui va toujours vers l'alcool, qui remplit son désir, on met déjà tout de suite en partant une connotation négative. Puis cette connotation négative est basée sur ce que nous, on pense du geste de l'autre.
Ben, tu donnes un bon exemple.
Oui, c'est un très bon exemple.
Les alcooliques anonymes, eux autres, leur technique, c'est la privation.
C'est ça.
Alors que je connais quelqu'un qui est alcoolique, qui est extrêmement intelligent. Lui, il a commencé à bénir. Il a commencé à bénir son alcool, puis il a perdu la soif.
Ouais.
Pour moi, il s'est pas privé. Tout est là. Tout est dans la subtilité du quelqu'un.
Tu sais, on regarde juste au niveau des Européens et des Canadiens. La façon dont, on va dire, bon, la siesta l'après-midi à 3 h, les Espagnols, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font le matin? Bon. Leur petit café, ils ouvrent leur petit restaurant. À 3 h, ils vont faire de la siesta. Non, avant, désolé, ils ont pris un peu d'alcool. Mais c'est tout est dans la façon d'être, le soleil, ça va avec. Mais ils vont pas. C'est une autre façon, une autre mentalité, les Européens, ensuite, ils font la siesta, après ça, ils ont l'apéro, après ça, ils ont le souper. Mais ils sont pas complètement sous, comme certaines personnes qui ont besoin de se lever le matin et d'avoir leur bouteille, là. Puis là, moi, j'ai vu la différence entre les deux endroits, parce qu'ici, c'est comme, on parle beaucoup de BS avec leur bière, là-bas, c'est correct, t'as l'apéro.
Regarde,
t'as l'apéro parce que ça passe bien, c'est social, tu vois, c'est merveilleux.
Mais regarde ce qu'on a fait avec les cégeps, regarde ce qu'on a fait avec les cégeps, là, on s'en va loin, mais les désirs, les étudiants ont noyé leurs désirs dans l'alcool. Moi, j'en ai fait des toga parties puis des parties de cégep, puis on marchait à quatre pattes en dessous des tables.
Les initiations,
mais ça, c'était
la carotte dans le pot.
C'est un peu plus de tout. Donc, ces désirs-là, est-ce que c'était vraiment un désir ou c'était une réalisation de...
Mais c'est la jeunesse, ça.
Ben, c'est ça.
C'est être con, jeune.
c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. On a rempli des désirs, mais c'était vrai, est-ce que c'était vraiment
des expériences, je pense. Mais c'était plus
vraiment
des
désirs primaires ou c'était qu'est-ce qu'on gagnait?
Mais tantôt,
d'être dans
tu
la
l'as
gang.
Dit, c'est personnel, c'est à toi de répondre à cette question.
Ouais.
Deux
ouais,
personnes,
moi,
auraient,
réponds, ça,
deux personnes auraient fait
ouais.
la même chose et puis ça aurait été différent.
Oui, mais c'était pour faire partie de la gang, faire partie du groupe, faire partie de.
Moi, j'ai jamais été comme ça.
Moi, j'ai toujours été comme ça.
Bien, on va faire une pause musicale avec une chanson de Princesse Sarah qui s'appelle « Mes envies ». Et on revient après la pause avec ce thème. Désirer est la chose la plus importante du monde.
Je suis mes envies, ça me garde en vie. Je suis faite comme ça, que ça plaise ou pas. Je vais où je veux, je joue à mes jeux. Je cours et je vole sans être frivole. Je vis dans ma tour et mes alentours sont faits de mes rêves ou c'est vraiment l'air. J'en fais mon destin, j'invente mes images, mes rires, mes grimaces. Je vis mes étreintes dans mon labyrinthe, à l'abri des yeux vils et malicieux.
Retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Désirer est la chose la plus importante du monde », n'en déplaise à Bouddha et aux chrétiens. À travers l'histoire, tous ceux qui ont parlé du plaisir, des désirs, ont toujours été battus, violentés, effacés. On peut parler par exemple des pythagoriciens qui étaient sur les règles et qui ont tué les sybarites, qui étaient des gens qui voulaient avoir du plaisir. Les épicuriens, on a perdu presque tous les écrits d'Épicure. Et à travers l'histoire, tous ceux qui ont voulu avoir du plaisir se sont fait taper sur eux. Pourquoi? Ben, quand quelqu'un qui a du plaisir, il ne veut pas travailler. Il est heureux, il veut faire l'amour, il veut être libre. Et puis ça, c'est pas productif, c'est pas bon pour l'appareil manipulateur plutocratique. Donc, est-ce qu'on comprend pourquoi on est dans une société présentement d'austérité? Hein? Il y a des mesures d'austérité qu'on parle en Europe, un peu partout dans le monde. On se prive, on coupe alors que c'est une blague. Toute l'économie, c'est une mauvaise blague.
Mais tu sais, ce que tu dis, c'est vrai. Puisque récemment, je suis en train d'écrire un reportage sur la Corée parce que les prochains Jeux olympiques seront là-bas. Puis, la Corée du Sud, puis la Corée du Nord, c'est deux mondes, là. Puis, avec le Kim Jong-il, puis le fils, puis là-bas, ils ne savent pas ce qui se passe ici. Ils n'ont aucune idée. Là. Ils n'ont pas le droit à l'Internet puis tout ça. Là. Cette privation, même s'ils ont un désir, là, cette privation, là, c'est tellement fou parce que c'est seulement une personne qui a cette privation-là et qui condamne tout le monde. Et je pense vraiment que c'est une attitude qui s'est transmise de génération en génération.
Tu parles des sportifs, je ne suis pas sûre de suivre.
Je parle de la politique. Là-bas. Les Coréens,
oui.
Je pense que c'est du Sud. Je ne suis pas sûre si c'est du Sud ou du Nord. C'est du Sud. Ils ne savent pas ce qui se passe ici.
OK.
Parce que la politique là-bas, elle reste restreinte. C'est extrêmement communiste.
Mais pour la Corée du Nord, c'est sûr, ils ont leur propre Internet.
C'est extrêmement communiste. Puis, ils vont juste montrer des publicités coréennes. Il n'y a rien du monde extérieur.
Comme en Chine. Exactement.
C'est une privation. Et ce qui était assez étrange, ça s'est transmis ici. Parce que j'ai plusieurs collègues asiatiques qui trouvent qu'ici, on est tellement paresseux. Ils nous trouvent qu'on est... souvent, je me suis fait dire ça, je disais, mon Dieu, vous autres, les Américains, puis Américains, c'est tout au complet. Là. Amérique latine, Amérique du Nord, État. Là. C'est vraiment... Ils nous trouvent paresseux. Ils trouvent qu'on a une attitude, là, vraiment. Hein, on ne comprend pas. C'est quoi le problème? Tu te lèves à 6 du matin, puis tu travailles, là, c'est tout. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui veut faire ça, là. C'est quoi cette affaire-là? Puis ils sont tellement...
C'est là que je parlais des Européens, tu sais. On est à côté des États-Unis, nous autres.
Mais en même temps, je comprends qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça. Mais il y a ce côté désir de la vie.
Mais
le désir
de
jouir la vie. Ils n'ont pas ça.
Les Ricains, les États-Unis, ils n'ont pas ça, là.
C'est plate parce que ça se transmet même dans leur visage. Il n'y a aucune émotion, aucune... expression. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scénaristes asiatiques, leurs films, on ne les verra jamais parce qu'ils parlent de la vérité, là, de ce qui se passe. C'est ce désir d'aller à l'extérieur de ce qu'ils sont. C'est pour ça que tous les films asiatiques, ça parle de guerre. Là, c'est tellement...
De geisha ou de guerre.
Ouais, de guerre. C'est... Et c'est pas ça. Pour de vrai, le désir d'être ce que tu es pour de vrai et être homosexuel asiatique, là, c'est quasiment la fin du monde.
Ben,
c'est
comprends.
Pas normal.
Mais vois-tu, c'est, toi, tu as le regard de américain, mais nous, on ne connaît rien d'eux non plus. On ne sait pas si ce qu'on sait d'eux, est-ce que c'est vrai ou pas.
Des Américains ou des Coréens?
Nous, on prétend qu'eux ne connaissent rien de nous, mais nous, est-ce qu'on connaît quelque chose d'eux? Donc, c'est le jeu de la télévision.
Je crois qu'il faut toujours... Moi, je fais une grande différence entre l'Occident et l'Orient. C'est deux philosophies différentes. Pour moi, le bouddhisme ne peut pas fonctionner ici. Le yoga ne peut pas fonctionner en Occident parce que c'est pas dans notre mentalité. Le yoga, c'est l'oubli de soi. Et oui, c'est ce que tu dis à propos de la Corée et l'Occident en Chine. Ils ont cet oubli parce que ça fait partie de la culture. Ils ont eu des grands penseurs qui les ont appris à s'oublier pour le plus grand tout. Et je trouve ça bien quand même. Mais moi, ça ne peut pas fonctionner pour moi parce qu'ici, on est plutôt dans l'individualisme alors que là-bas, ils sont plutôt dans le communautarisme ou la communauté. Ils s'oublient dans un grand nombre. Et il faut toujours faire attention. Moi, je rejette le yoga dans son fondement. Je pourrais faire, par exemple, du hatha yoga pour m'étirer, mais je ne ferais pas du yoga pour atteindre l'éveil parce que quand je l'ai fait, d'ailleurs, je l'ai fait à une certaine époque, à la fin de ma trentaine, j'avais des problèmes parce que j'étudiais à fond, puis ça me disait, bon, il faut que tu laisses tes désirs. Et bien, moi, j'avais une compagne à ce moment-là, puis je me disais, pourquoi je pourrais plus faire l'amour avec elle? Et ça m'enseignait à ne plus faire l'amour, à rediriger mon énergie sexuelle ailleurs.
L'amour tantrique.
Ça n'avait aucun sens pour moi. Alors, finalement, j'en ai venu à croire que je ne suis pas un yogi, moi, je suis un bogi. Le boga est le contraire du yoga. Si le yoga, c'est de laisser, c'est de se détacher, le boga, c'est de tout prendre. Et puis, je crois que quand tu as tout pris, et c'est là que tu atteins la vie, tu atteins la vie éternelle parce que tu es satisfait.
Boga, là.
B-H-O-G-A. Et ça existe, j'ai vérifié. Vous voulez aller voir sur Wikipédia, c'est là. Il y a très peu de bogi encore parce que, justement, ce n'est pas courant. Il y en a un, il y en a en Inde, quelques-uns. Il y a Nisargata Maharaj qui a écrit un livre qui s'appelle I Am. Lui est un homme qui a rencontré son maître. Et puis, son maître est mort après 3 jours. Alors, il n'a pas eu assez d'enseignement. Là, il s'est éveillé. Puis là, il a décidé de partir parce que en Inde, il laisse tout. Les sadhus s'en vont nus. Et puis, après 3 ans, il a rencontré un ancien élève du professeur. Puis il a commencé à parler avec lui. L'autre élève lui a dit, mais t'as rien compris. Notre professeur ne nous a pas dit de tout laisser. Il y avait une femme, il y avait des commerces. Et là, il a compris qu'il fallait qu'il revienne avec sa femme. Donc, est-ce qu'on peut être dans l'éveil au cœur même du monde? C'est ça le beau gars.
Ben, c'est un peu comme les moines là, qui s'enferment pendant, puis que finalement, c'est ça, ils n'ont plus de femme, ils n'ont plus rien. C'est comme les prêtres, c'est la même mentalité.
Mais c'est,
là,
c'est
de dire,
pour
je
ça
vais me sacrifier ma vie personnelle.
De ça, prêtre et tout.
Tu mets le doigt, moi, sur quelque chose
de. Bon, avec, tu parles de prêtres et tout. Ça, c'est la pire affaire au monde. C'est des pédophiles et tout. Ils sont tellement pris.
Alors, je généralise pas, là.
Je généralise pas, mais quand tu te prives, surtout sexuellement, écoute, tu m'as donné. Ça devient extérieur, là.
Absolument.
Ça
ben
devient
oui,
extérieur. Donc, c'est là qu'il y a un désir. Tu désires avoir la chaleur humaine.
Et tu parles justement de pédophiles ou d'homosexuels qui se sont ramassés prêtres parce qu'ils n'étaient pas attirés envers les femmes. Tu sais, ben à l'époque, c'est comme, bon, mais regarde, j'aime pas les femmes, je vais aller vers les. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a eu
la
pédophilie. Pour,
l'Église a tellement tapé. A tellement tapé sur la sexualité que ça lui revient
c'est ça.
En pleine face. Ça, c'est ça le contrôle.
C'est tellement. Exactement. Tu peux pas contrôler un désir. Dès que tu décides de contrôler un désir qui est très fort, consciemment, là, ça va vraiment te troubler. Là,
donc, ce que tu dis, c'est qu'il faut l'assumer, le désir.
Bien, il faut que tu l'assumes. Il faut
le verbaliser
le
et le vivre.
Faut
en tout cas, au moins.
Parce que c'est sûr que.
Obligé.
Mais je parle pas de. Un désir absurde dans genre j'ai goût d'aller tuer du monde dehors. Là, t'as vraiment un problème. Mais moi, je te parle d'un désir intérieur qui va te faire
oui.
du bien. Là.
Mais
un
on
désir
peut pas, on peut pas dire oui à tous nos désirs, je veux dire. En tout cas,
oui,
moi,
c'est ça.
Oui.
C'est ça.
Oui, OK.
Mais c'est
oui,
parce que
mon
tantôt.
Dieu, je vais avoir une longue vie parce que moi, tous les jours. Ah,
mais c'est
oui,
ça que
je
disais
je veux
au,
ça, je veux
au
ça,
début.
Ça, je veux faire ça, je veux...
La vie, elle est courte.
Elle est trop courte.
Si tu es castré philosophiquement.
Ah.
Alors, parce que tantôt, là, on a fait la différence entre le besoin et le désir.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu as besoin de fumer ou tu désires fumer? C'est deux choses différentes. Mm-hmm. Les deux personnes vont faire le même acte, mais un va se culpabiliser, l'autre va en jouir.
Mm-hmm.
Et quand on
comme
jouit,
tes drogues psychédéliques.
En effet, moi ça m'a grandi.
Ça me fascine,
alors,
ça
m'a grandi alors que ça l'a détruit 90% des gens. Mais ces gens-là ne se sont pas éduqués. Et c'est ça le gros problème. L'éducation des sentiments, l'éducation
et
de ses désirs.
La culpabilité, comme tu dis.
Exact. Si tu te sens pas, si tu culpabilises sur l'acide, ça va virer mal. Parce que tout est décuplé. Et même sur le pot, quand on parlait
même
du pot.
Même deux puffs de. Y a-tu quelque chose qui fait plus paranoïer que ça?
Exact.
Là? Si t'es pas content, tu te sens coupable, t'es fait.
Donc, en fin de compte, on revient à la centricité de la personne, de l'être. Si tu. Parce que moi, je regarde, pendant que vous parlez, je regarde ce que moi je suis en tant que personne. C'est sûr que j'adhère pas à tous mes désirs. Je sais que j'ai des craintes, je sais que j'ai des peurs. Mais c'est pas, je sors pas dehors puis je dis je veux faire ça et je le fais tout de suite. Il y a toujours quelque chose qui te bloque. Et je pense que le désir n'est juste qu'un symptôme sur comment ton mental est construit. Parce que si tu étais libre de ton mental, tu réaliserais tous tes désirs et tu serais heureux à 100%. Donc, à ce moment-là, ça revient toujours. Le désir n'est que la condition au bonheur que tu veux faire, tu veux avoir dans ta vie, là.
C'est vrai.
Parce que tout le monde, même au Québec, surtout avec la religion, dès le départ, qu'il y a eu, tu ne pouvais pas avoir d'enfant avant le mariage, tu ne peux pas faire du sexe avant le mariage. Moi, mes parents sont de cette génération-là. Si tu avais des enfants avant le mariage, tu étais banni du clergé, tu n'existais plus. Là.
Oh, mais c'est
donc,
sûr
à ce
que...
moment-là, donc il y a un construit mental. Donc, le désir, il vient bien après le nettoyage de ce qui est arrivé.
Mais ce qui est bon, aujourd'hui, on a, avec toute la technologie et tout ce qui est assez avancé, là, les nouvelles générations vont vivre tous leurs désirs. Ça, je peux vous le garantir. Ouais. Ils vont vivre tous leurs désirs. Ils n'auront pas cette barrière que nous, on nous avait déjà mis depuis l'enfance, là. C'est pas bien, fais pas ça.
En tout cas, je sais pas s'ils vont vivre leur désir comme on l'entend nous aujourd'hui, mais c'est une chose qui est sûre, c'est qu'ils vont expérimenter ce que nous, il y avait des tabous à expérimenter à l'époque. C'est déjà juste
moi,
au niveau de la
certain,
sexualité, la bicuriosité sexuelle, la bisexualité. J'ai des neveux, des nièces à 10 ans... Il savait pas s'il était, puis on parle de 10 ans, là. Je veux dire, c'est la nouvelle, pas la nouvelle génération, mais plus jeunes encore, là, eux, là, ils essaient plein de choses. Ce que nous, on n'avait pas le...
Non, c'est
vraiment,
sûr, non.
Moi, j'étais dans un couvent de serre, là. Écoute, j'avais des codes quand j'avais un bec à mon chum, là. Fait que là, aujourd'hui, je sais pas si j'ai un chum ou une blonde. C'est comme ça que c'est dans nos écoles primaires, maintenant.
C'est la fin, puis on commence à être dans le vif du sujet.
Et voilà.
Et oui, en effet, c'est déjà
la fin. C'est pour ça.
C'est déjà la fin de l'émission. Alors, merci à tous d'avoir été parmi nous aujourd'hui.
Merci.
On vous invite à réécouter l'émission en podcast sur propossurlebonheur.com. On remercie Radio H2O de diffuser notre émission. Et puis, on vous laisse sur une chanson de Anne Goon qui s'appelle « Mes désirs contraires ». Et on vous souhaite bonne semaine à tous. Moi, en tout cas, je vous souhaite de suivre vos désirs cette semaine.
Allez, on y va. Magnifique chanteuse, Anne Goon.